BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, les contemporains du futur. Bienvenue à tous, vous pros les cryptos, comme chaque vendredi, nos NFT, rien qu'à nous, sont présents, nos talents non fongibles. Aujourd'hui, Charles Aubert Couturier est avec nous. Bonjour Charles.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue, membre de la blockchain partner by KPMG. Thibaut Boutrou ici avec nous pour Meria. Bonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Et ravi aussi de vous retrouver Thibaut dans un instant. On va bien sûr parcourir les grandes actualités qui ont fait cette semaine. Mais d'abord, Vincent Gann est avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume.
Le cours du Bitcoin à 105 000 dollars ce vendredi après-midi, toujours entre les 100 et 109 000 dollars touchés cette semaine. Est-ce que vous nous confirmez qu'on n'est pas encore au bout de la, comment on dit, du bull run sur le Bitcoin ?
Oui, effectivement. Alors, il y a déjà une première victoire. Bitcoin arrive depuis la mi-janvier à se maintenir au-dessus des 100 000 dollars de manière moins volatile. Et oui, et Guillaume, je vous confirme, le cycle haussier est très loin d'être terminé. Alors, je soulève deux aspects. Le premier aspect qui va nous concerner directement, c'est l'aspect statistique. Le mois de février qui arrive, et ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de février est historiquement le deuxième mois le plus performant pour Bitcoin après la période octobre-novembre. Donc ça, c'est un point très favorable pour la suite de l'hiver. Et le deuxième aspect, vous n'êtes pas sans savoir que Bitcoin est un marché très cyclique. Les outils de répétition de cycle fonctionnent très bien, notamment lorsqu'on compare tous les cycles Bitcoin depuis 2010 avec comme base de référence le nombre de jours écoulés depuis le halving. Aujourd'hui, je vais être précis, nous sommes 279 jours après le halving, et plus ou moins entre maintenant et 330-340 jours, c'est aussi une période cyclique archi favorable lorsqu'on fait la moyenne des trois cycles passés pour Bitcoin. Donc il y a vraiment tout qui porte à croire, en tout cas d'un point de vue technique, que nous aurons une période février-mars très favorable pour Bitcoin, et moi je vous confirme ma cible des 140 000 dollars pour à peu près la mi-mars.
140 000, alors voilà, c'est une idée, c'est un palier, ce n'est pas un conseil d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères techniques justement pour la tendance du Bitcoin, mais alors à plus court terme pour ces tout prochains jours, Vincent ?
Oui, à très court terme, c'est archi simple, c'est un trading range entre 98 000 et 100 000 dollars pour la partie basse, 108 000 dollars pour la partie haute, et moi je pense qu'on cassera à la hausse la partie haute au plus tard, première semaine au mois de février, et que la tendance haussière va se relancer.
Merci beaucoup Vincent Gann, analyste technique indépendant avec nous très très régulièrement. Alors dans l'actualité de la semaine, bien sûr, c'était la nuit dernière, les décrets ont été signés, les décrets pour lancer une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Ça y est, c'est fait, on va vous livrer les détails avec nos pros dans un instant et on se demandera si les Américains qui sont quand même amoureux de Wall Street, amoureux de la bourse, sont prêts à céder une partie de leurs actions en faveur des cryptos. Tiens, on va regarder ça de très près. Les États s'y mettront-ils ? Se mettront-ils au stacking de crypto ? Tiens, pour peut-être améliorer leurs finances publiques, un certain nombre d'États ont de gros déficits, de grosses dettes, suivez mon regard. Certains États pourraient-ils un jour trouver un intérêt dans le stacking ? On va poser aussi cette question parce que aux États-Unis, l'État de l'Utah est en train de faire un pas en avant vers justement le stacking de crypto. Et puis Silk Road quand même, c'est l'autre grand événement de la semaine et c'est vrai que ceux qui suivent les cryptos et le Bitcoin depuis des années, presque depuis le début, savent de quoi on parle. Là, on est sur un tournant majeur puisque le créateur de Silk Road a finalement été libéré. Là aussi, c'est une décision de Donald Trump. C'est votre machine à concentrer l'essentiel de l'actu crypto, elle s'enclenche cette machine tout de suite. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc Charles aujourd'hui. Bonjour Charles.
Bonjour Guillaume.
Bon, et Thibaut bien sûr. Bonjour Thibaut, ravi de vous retrouver l'un et l'autre.
Bonjour Guillaume.
On va parler de Donald Trump président, ce que ça change maintenant qu'il est de retour à la Maison Blanche. Mais d'abord quand même le traumatisme de la semaine, faut qu'on démarre là-dessus pour l'écosystème, un traumatisme notamment pour notre écosystème français. On en parlait déjà il y a deux semaines, hein, les braquages d'acteurs crypto se multiplient avec les records du Bitcoin. Mais cette semaine, l'un des cofondateurs de Ledger a vécu un cauchemar. David Bellan, qui lui et son épouse ont été enlevés à leur domicile. Les ravisseurs demandaient une rançon de crypto. Alors depuis, on les a retrouvés et ils sont sains et saufs, mais blessés. On en est où là, Charles ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette sombre affaire ?
Ouais, peut-être déjà commencer par une pensée pour David et sa femme et être content de voir qu'ils ont pu être libérés. Cette histoire, je pense que elle est juste symptomatique. Je vais commencer par quelque chose d'assez compliqué, mais symptomatique de la méconnaissance certainement des malfaiteurs sur le domaine des crypto-monnaies. C'est-à-dire que malheureusement, c'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur d'autres personnes certainement. L'idée, c'était certainement de cibler quelqu'un en se disant, il a l'accès, il a son mot de passe, il va pouvoir nous transférer tous ses actifs. Le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Et en plus de ça, il y a une traçabilité qui est extrêmement forte. Donc, on voit que la rançon a été payée, par exemple, et le commandement de la cyberdéfense a été impliqué dans cette opération et est venu geler les fonds juste après le transfert. Donc c'est à la fois très naïf et à la fois totalement stupéfiant comme affaire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Lugubre, on en est où là de l'enquête? Elle n'est pas complètement terminée encore?
Non, alors il y a plusieurs éléments qui sortent. L'enquête n'est pas totalement terminée, donc je laisserai le parquet communiquer.
Effectivement. Alors, d'après les premiers éléments, ils auraient été séquestrés donc dans une maison isolée de la région, lui et puis sa femme dans les Yvelines. Ils ont été largement séparés. Il s'agit d'un crime faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité en l'occurrence. Alors oui, on souhaite un bon rétablissement à David Balland et à son épouse. Les rapaces sont de retour, les braqueurs qui s'attaquent aux figures de l'écosystème, les jaloux. On l'avait déjà vu il y a quelques années, ça d'ailleurs, ce phénomène avec ces records du Bitcoin qu'on voit très régulièrement. Comment se prémunir, Thibaut, de ce genre d'attaques et de rapaces?
Déjà, la première chose, c'est avoir conscience que malheureusement, ça existe. Et donc, il faut en avoir conscience et ne pas croire que ça arrive qu'aux autres ou que ça arrive qu'à l'autre bout de la planète. On a eu plusieurs épisodes récemment sur le territoire et alentour qui nous montrent que ça peut arriver. Il n'y a pas 15 000 manières, hein. Il y a plutôt des bonnes pratiques qu'on peut mettre en œuvre, hein. Ça commence par s'assurer que des informations personnelles ne soient pas accessibles facilement. Alors, par information personnelle, j'entends par exemple votre adresse, l'adresse de votre domicile, qu'elle puisse pas être retrouvée facilement. Faire une distinction sur vos canaux privés et vos canaux publics ou vos canaux pro quand vous vous exprimez sur les différents réseaux. Éduquer aussi vos proches, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que parfois c'est les proches qui sont ciblés et qui sont pas forcément sensibiliser de la même manière, donc penser à les éduquer et surtout ne pas étaler son patrimoine crypto ou pas d'ailleurs un petit peu partout, puisque on voit que ça peut attiser des personnes mal intentionnées. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes pratiques, mais avoir en tête que le risque zéro n'existe pas et être très vigilant, quoi.
Effectivement. Bon, on parle de choses plus réjouissantes quand même, parce que l'actu est réjouissante au-delà de cette sombre affaire qu'on vient d'évoquer. On va parler de Donald Trump. Alors, je sais pas si Donald Trump, en soi, est réjouissant à lui seul. Mais, évidemment, il a signé des décrets très importants pour l'écosystème crypto. On en parle dans un instant, mais d'abord, une autre nouvelle qui vient de nous tomber. C'est la priorité en direct, toujours sur BFM Business, cette déclaration du patron de BlackRock à Davos, Larry Fink, qui, dans une interview à CNBC, il y a quelques minutes, Charles, demande à la SEC d'approuver la tokenisation des actions et des obligations. Il dit: il faut approuver cette tokenisation le plus rapidement possible. C'est le patron de BlackRock qui s'exprime. Et on ne parle pas d'un petit marché, là. Tokeniser le marché actions, par exemple, Wall Street, ça reviendrait à tokeniser 30 000 milliards de dollars.
Oui, c'est absolument gigantesque. C'est pas la première fois que Larry Fink s'exprime sur le sujet. BlackRock est très proactif. Deux éléments qu'il supporte: ils ont lancé leur fameux ETF Bitcoin, qui est un succès depuis son lancement. Et de manière peut-être plus confidentielle, ils ont sorti également un produit tokenisé qui sont des money market funds, donc des fonds monétaires jetonisés. Donc ça, c'est leur manière d'adresser le marché. Pour eux, il y a un enjeu gigantesque puisqu'ils sont côté asset management, donc dans la distribution de l'actif. Et donc plus on peut jetoniser, donc émettre des actifs sur des marchés cotés et les transférer facilement, plus ça a un intérêt pour BlackRock. Donc c'est vraiment une news super importante et qui va dans le sens des décrets qui ont été signés par Donald Trump.
C'est ça. Et la différence avec avant, c'est que la SEC, sans doute, cette nouvelle SEC qui est en train de se mettre en place, sans doute dira oui à la tokenisation du marché actions et du marché obligataire.
On peut le supposer. Après, ça pose plein de questions. C'est-à-dire que gérer des crypto-monnaies, c'est une chose. Gérer des actifs tokenisés, il y a un sous-jacent. Il faut pouvoir aussi rentrer dans un cadre légal. Comment est-ce que ça peut être géré de manière internationale, etc., etc. Donc, il y a d'autres questions qui se posent. Mais en tout cas, c'est assez certain que la SEC va vouloir mettre un cadre là-dessus.
En espérant que les acteurs européens là-dessus, sur la tokenisation du marché, ne prennent pas de retard non plus. Un appel à nos grands géants d'actifs, bien sûr, et à Euronext. Mais l'actualité, c'est donc surtout ce décret signé par Donald Trump, prévoyant à terme la création, Charles, d'une réserve stratégique de Bitcoin. Ça y est, le décret est signé.
Effectivement. Alors, le décret dit pas qu'il faut créer immédiatement une réserve stratégique de Bitcoin. Et d'ailleurs, du peu, c'est sorti hier, donc j'ai eu le temps de consulter rapidement, mais ça part de créer une réserve stratégique en crypto-monnaie. Donc ça, c'est très important aussi de voir qu'est-ce qu'ils vont mettre derrière crypto-monnaie, parce que il y a Bitcoin et j'allais dire il y a tout le reste derrière. Donc c'est ça, il va falloir bien être attentif à ce point-là. Et c'est l'enjeu du groupe de travail qui a été lancé, et donc dans les, je crois, 3 ou 4 prochains mois, de pouvoir avancer sur ce sujet et de spécifier la manière dont ça pourrait fonctionner.
Oui, et quel montant d'ailleurs ? C'est une question qui reste entière. Et évidemment, le décret ne précise pas combien de crypto, combien de bitcoin y aura-t-il dans cette réserve stratégique. On imagine, Thibault, que l'impact sur le prix, sur le cours du bitcoin ne sera pas le même si les États-Unis achètent des bitcoins ou s'ils utilisent les cryptos déjà saisies, qu'ils ont déjà en leur possession parce qu'ils l'avaient saisie, et notamment la justice américaine en l'occurrence.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, s'ils utilisent les bitcoins déjà saisis, il n'y aura pas d'ordre d'achat au marché. Donc on pourrait imaginer que l'impact sur les cours ne soit pas immédiat. Ça reste quand même une actualité majeure. Et le jour où l'actualité sortira, ça va créer un mouvement d'euphorie sur le marché. Et on peut imaginer que les investisseurs vont prendre note. Et donc on peut imaginer aussi un effet quand même direct sur le cours. En tout cas, l'actualité sera subie de beaucoup de volatilité. Ensuite, l'autre point important, c'est qu'indirectement, à partir du moment où les États-Unis prendront cette position-là, ils vont forcer un petit peu l'ensemble des autres États à poser la question sur la table pour de vrai. Et à ce moment-là, tous les États ne disposent pas de Bitcoin dans leur réserve. Donc si d'autres États décident de le faire, pour certains, ça impliquera certainement de l'achat au marché. Et donc, on peut imaginer un impact positif sur les cours.
Et à part la réserve stratégique, ce décret qui a été signé donc par Donald Trump hier, il contient quoi d'autre, Charles ?
Il contient plein de choses en réalité. C'est ça qui est passionnant, et on voit qu'il y a une forme de promesse qui est tenue, puisqu'il avait dit qu'il tout de suite il sortirait des décrets sur le sujet, et c'est bien le cas. Une des choses qui ressort, c'est la promotion du dollar, et notamment des stablecoins en dollars. C'est déjà le cas puisque 99% du marché est couvert par des stablecoins dollars. Mais en parallèle, l'interdiction de sortir des monnaies numériques de banque centrale. Donc on voit qu'il met un peu sur le même plan finalement la promotion du dollar, mais la promotion via des acteurs privés et non pas via l'acteur étatique. Donc ça, c'est un premier point. D'autres aspects, c'est la promotion des blockchains publics. Donc ça, encore une fois, de favoriser par exemple l'industrie du minage en Europe, de favoriser également la détention d'actifs en propre par les utilisateurs. Donc on voit qu'on est vraiment dans la droite lignée de cette volonté de promouvoir les cryptoactifs aux US.
Effectivement, de les promouvoir, et au contraire, haro sur le dollar numérique, haro sur les monnaies numériques de banque centrale. Donald Trump, dans ce décret, effectivement, interdit les MNBC. Enfin, pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que Donald Trump leur reproche, Thibault, aux monnaies numériques de banque centrale ?
C'était dans la lignée de ce qu'il avait dit pendant la campagne. Il s'était déjà opposé, ou en tout cas positionné de manière frontale au MNBC. Les MNBC, pour les acteurs pro-crypto, ça rime avec de la surveillance, ça rime avec une centralisation à outrance. Et donc, tous ces sujets-là, si on sort même de la dimension technologique, ça va un petit peu à l'encontre de l'idéologie de Trump sur les libertés individuelles. Donc, c'est pas surprenant de le voir se positionner contre ce sujet-là. Et on peut aussi voir un message un peu plus subliminal pour rassurer ces partisans pro-crypto qui ont financé sa campagne et ceux qui ont contribué à les lire.
Effectivement. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Crypto également tout au long du week-end. On verra si la réserve stratégique voit le jour. Il y a eu un décret en faveur, mais combien d'argent, combien de crypto dedans ? La question reste entière. Et au-delà, les États se mettront-ils un jour à stacker des cryptos ? Est-ce que vous pensez, vous, les pros des cryptos, que les États, pour améliorer leurs finances publiques, pourraient un jour choisir de stacker des cryptos comme certains particuliers ou investisseurs le font déjà ? Au niveau fédéral américain, on n'en est pas là, mais au niveau local, il semble que ça avance, Thibault. L'État de l'Utah, par exemple, pourrait, semble-t-il, se mettre à stacker. Alors déjà, c'est quoi stacker ? Parce que tout le monde, tous ceux qui nous suivent, connaissent pas. Et quel serait l'intérêt pour un État comme l'Utah ?
Ouais, c'est une news qui m'intéresse particulièrement puisque nous le stacking c'est une grande part de notre métier chez Meria. Concrètement, si on veut simplifier, le stacking ça consiste à immobiliser des crypto-monnaies et on va récupérer en récompense des crypto-monnaies en contrepartie. Derrière, il y a toute une participation au réseau, mais concrètement, si on veut le dire simplement, ça consiste simplement à ça. Et donc dans l'État de l'Utah, il y a une proposition de loi qui a été faite en début de semaine qui vise à potentiellement intégrer des cryptos dans les réserves de cet État, mais avec cette fois des lignes en plus, on va un petit peu plus loin et on intègre effectivement cette notion de pouvoir staker ces cryptos, également de faire d'autres actions comme du prêt de crypto. Donc c'est intéressant parce que ça montre que d'autres États vont déjà un petit peu plus loin en explorant tout le potentiel de la crypto. Il y a aussi un certain nombre de conditions qui sont mises derrière pour pouvoir être éligible à faire toutes ces actions-là, mais ça montre qu'il y a une vraie volonté de creuser le sujet, ça c'est intéressant.
Effectivement. Alors, quel avenir du coup pour le stacking ? C'est l'objet de la question crypto qui claque. Et là, la pression monte sur le plateau de BFM Crypto. Chaque semaine, effectivement, on pose cette question gênante. grinçante aux pros des cryptos. La question de la semaine, les États pourraient-ils un jour choisir de stacker des cryptos pour améliorer leurs finances publiques? Voilà, on parlait là de l'État de l'Utah, mais est-ce que ça se fera aussi à une autre échelle? L'État fédéral américain, les États européens, pourquoi pas un jour stackeront-ils des cryptos? Oui ou non? Telle est la question crypto qui claque de la semaine. Je vous laisse un instant de réflexion, Charles et Thibault. Et vous savez que vous tous, vous pouvez vous abonner à notre fil XBFM Crypto et participer chaque semaine en répondant à cette question crypto et en nous laissant vos arguments en commentaire. On essaie à chaque fois de rebondir dessus. Charles, pour vous, les États un jour stackeront-ils des cryptos?
Oui.
Thibault?
Oui.
Ah. Oui. Alors là, messieurs, il va vraiment falloir vous justifier. Pourquoi les États se mettraient-ils d'un coup à stacker des cryptos, sachant qu'ils en sont à peine à découvrir ce qu'est un Bitcoin?
Charles. Ouais, alors, je pense que s'il y a un an, on m'avait dit que le président des États-Unis considérait faire une réserve stratégique en Bitcoin, je me serais dit, peut-être pas aussi rapidement. Et pourtant, c'est le cas, et la question est en train de se poser. Donc finalement, si la question c'est de faire une réserve stratégique en Bitcoin, pourquoi est-ce, ou en crypto-monnaie, pourquoi est-ce que derrière, la suite logique, c'est pas tout simplement de pouvoir venir sécuriser des infrastructures avec? Donc ça me paraît être une suite assez logique. La question contenait la dimension de temporalité avec un jour, donc je pense que oui, un jour, ça arrivera.
Parce que ce serait une façon peut-être vertueuse d'améliorer les finances publiques. Il y a ça, l'idée, c'est de donner, offrir une rentabilité à notre argent collectif.
Oui, finalement, c'est si j'ai des cryptos, si elles ont été saisies, si elles font partie d'une réserve fédérale, bah pourquoi est-ce que celle-ci pourrait pas être utilisée pour générer une forme de rendement?
Ouais. Ouais. Thibault, vous participez de cet optimisme, vous pensez qu'un jour il y aura une forme de, on verra apparaître une forme de stackisme d'État?
Ouais, pourquoi pas. En tout cas, chaque chose en son temps. Il va déjà falloir intégrer des cryptos dans des réserves et ensuite, pourquoi pas. C'est une suite assez logique, surtout que quand on parle de réserve fédérale, on parle de détention plutôt à long terme. Et dans une détention à long terme, finalement, la notion de stacking, elle rajoute pas un risque supplémentaire, puisqu'on est déjà exposé. Le stacking va représenter un risque de volatilité à court
terme. Vous avez un appel, Thibault. On va vous laisser répondre. Juste le temps pour nous de regarder les réponses de nos auditeurs et téléspectateurs. Est-ce que le stacking d'État un jour sera réalité, oui ou non? Vous êtes 82% à penser que oui, un jour les États feront du stacking pour améliorer leurs finances publiques. Thibault vient de raccrocher. Thibault là-dessus, donc stacking d'État, oui, et massif. Il insiste un petit peu là, Charles.
Peut-être juste un point qui est intéressant à noter. Il y a déjà, c'est pas l'État, hein, mais il y a une filiale filiale d'EDF qui s'appelle Exaion qui fait du staking aujourd'hui et qui permet de faire du staking. Donc c'est pas l'État directement, mais il y a une filiale qui est en charge de ce sujet-là.
Thibault. Ah bon, là toujours pas. Bon, allez, n'hésitez pas chaque semaine bien sûr à participer à cette question crypto qui claque qu'on vous pose. C'est vrai que le stacking est aussi peut-être une solution à venir pour l'écosystème Ethereum. C'est un débat en cours. Vitalik Buterin, ces derniers jours, a suggéré à la fondation Ethereum elle-même de stacker ses Ethers.
Ouais, exactement. Alors la fondation Ethereum en
va pas très bien.
Ils ont été, j'allais dire, accusés d'une certaine manière de pas être assez proactifs, de s'être un peu diversifiés sur plein de questions techniques, technologiques, et de pas avoir une dimension plutôt usage, adoption, qui soit plus importante. Et donc en réalité, l'enjeu c'est un peu de reprendre en main l'Ethereum Foundation et d'avoir une forme de dynamisme beaucoup plus importante. Donc finalement d'investir les crypto-monnaies, de les staker, de pouvoir les déposer dans des protocoles de prêt et d'emprunt type AVE. Donc finalement d'avoir une gestion active de la trésorerie de cette entreprise. De cette fondation. En parallèle, l'idée c'est également de pouvoir favoriser l'adoption par des entreprises, par des institutions financières du protocole. Donc on voit qu'il y a une vraie volonté un peu de se restructurer, de se refocaliser sur les missions premières de ces blockchains, c'est favoriser l'adoption de cette technologie, que ce soit par les institutions ou les corporates, encore une fois, par les particuliers également, mais voilà, de structurer un peu la démarche.
Vitalik Buterin qui essaie de ressouder, de recimenter effectivement sa fondation Ethereum, où les dissensions, Thibault, sont de plus en plus vives et visibles. Et donc, il propose, Vitalik Buterin, pourquoi pas, d'améliorer l'avenir, d'améliorer, de reconstruire, renforcer les perspectives grâce au stacking. C'est ce qu'il propose aux membres de la fondation Ethereum, stacker ses Ethers. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie solution ou c'est juste une forme de ciment pour, à court terme, en tout cas, essayer de ressouder la communauté?
Il y a cette volonté de trouver des solutions à court terme, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de questionnements autour de la fondation aujourd'hui et aussi de son implication. Donc là, ce serait une manière de répondre à plus court terme avec une solution assez simple. C'est aussi une manière qui permettrait à la fondation de générer un revenu supplémentaire, revenu qui pourrait directement servir de liquidité à être injecté pour financer d'autres initiatives de la fondation. Donc c'est un espèce de cercle vertueux qui pourrait apporter une double réponse avant de trouver d'autres solutions.
Les pros des cryptos, l'essentiel de l'actu de la semaine résumé en 20-25 minutes et du lundi au jeudi, vous le savez, le club BFM Crypto vous accompagne également sur BFM Business, Sandra Gandoin aux commandes. Ce nouveau monde donc a surgi, le monde de Donald Trump, de retour à la Maison Blanche depuis lundi dernier. Quel impact ça a eu sur l'investissement crypto, notamment sur la collecte des produits en Bitcoin ou en crypto là, depuis lundi, depuis qu'il est de retour à la Maison Blanche, Charles?
Ouais, bien sûr. Alors j'ai regardé hier, hein, donc j'ai pas encore intégré aujourd'hui, mais la collecte nette était de 1,25 milliard de dollars, je crois, sur cette semaine. Donc on voit qu'il y avait une volonté, ou en tout cas une perception des investisseurs, qu'il allait y avoir des signaux positifs dans l'administration. Après, derrière, je pense que on voit même les dernières news qu'il y a eu, hein, sur les décrets qui sont sortis, n'ont pas eu forcément d'impact direct sur les cours. Les cours se sont plutôt maintenus. L'idée, je pense, c'est de voir dans les mois qui viennent qu'est-ce qui va se passer sur ces décrets, quelle va être la réglementation qui va être construite autour de ces actifs, comment ça va être géré. Donc voilà, ça c'est peut-être dans les prochains mois qu'on va le savoir.
Après les déclarations d'amour, il va falloir passer aux preuves d'amour. Hein, c'est l'idée. C'est ce qu'on voit aussi sur le marché traditionnel avec l'IA. Hein. La thématique IA, elle a été achetée et surachetée par le marché depuis 2 ans. Puis maintenant, le marché veut des preuves de retour sur investissement. Pareil, il faut les preuves d'amour. Et là, on arrive aussi dans cette étape du côté du marché crypto face aux promesses et aux décrets signés hier de Donald Trump. En tout cas, le Bitcoin peu à peu se démocratise dans les esprits, on le voit. Et il n'est officiellement plus, le Bitcoin, un investissement de niche. Un rapport de WisdomTree, Thibault, nous dit que les institutionnels aussi se ruent désormais sur Bitcoin.
Ouais, tout à fait. Alors, on n'apprend pas grand-chose de nouveau dans ce rapport-là. Par contre, ça confirme la tendance qu'on est en train d'observer depuis maintenant un peu plus d'un an, avec une institutionnalisation de Bitcoin en tant qu'actif, avec certains termes qui sont assez forts d'ailleurs, qui sont utilisés dans le rapport, le fait de considérer Bitcoin non plus comme un actif de niche, mais il est considéré comme un actif institutionnel incontournable. Donc c'est des mots qui sont assez forts. Il y a aussi cette notion de risque qui s'inverse, où là, dans le rapport, il est clairement dit que les gestionnaires d'actifs qui ne considèrent pas Bitcoin dans une diversification de portefeuille s'exposent potentiellement à un risque par rapport à ceux qui l'ont déjà considéré. Donc en vraiment peu de temps, le risque s'est totalement inversé et ça pousse vers une institution beaucoup plus globale.
Oui, mais j'ai le sentiment que l'institutionnalisation aura véritablement abouti totalement quand les banques américaines, alors non seulement auront peut-être de plus en plus adopté les cryptos, mais aussi les accepteront de plus en plus comme moyen de paiement. Il se trouve que Donald Trump veut déréguler à nouveau la finance américaine. Est-ce que ça pourrait décomplexer les banques américaines, les pousser effectivement à finalement davantage accepter les cryptos en moyen de paiement?
Alors, accepter les cryptos tout court déjà, avant même de les accepter en moyen de paiement, c'est une certitude. L'enjeu pour la crypto, c'est même pas tant une dérégulation, c'est une régulation tout court, puisqu'aujourd'hui, on sait même pas dans quel cadre elle rentre. C'est surtout pour eux cet enjeu-là. Il y a un point très spécifique et très précis qui s'appelle SAB 121, qui est une norme comptable en réalité, et qui est aujourd'hui quelque chose qui globalement empêche beaucoup des banques américaines de pouvoir, même pas offrir des options de paiement, mais offrir l'option de conserver pour le compte de tiers des cryptos. Tout simplement parce qu'ils sont obligés de mettre ces cryptos à leur bilan, et donc du coup ça a des impacts sur le bilan de la banque, sur les fonds propres de la banque. Et donc ça, c'est une norme comptable qui devrait être levée par la nouvelle administration et qui va permettre de favoriser en réalité la détention pour le compte de tiers de crypto-monnaies et ouvrir la voie évidemment à du paiement par la suite.
Oui. Oula. Oula. L'Himalaya. On monte, on grimpe, hein. On fait de mon mieux, mais c'est dur. Manque de souffle. L'autre Himalaya à gravir pour les cryptos, c'est damer le pion à la bourse. Bitcoin sera vraiment, messieurs Thibault, Charles, Bitcoin sera vraiment mainstream quand les Américains qui ont Wall Street dans le sang, qui ont le Nasdaq dans la peau, les Américains, qui ont la bourse au cœur, ça fait partie de leur culture et de l'épopée économique américaine. Bitcoin sera vraiment mainstream quand les Américains vendront une partie de leurs actions pour acheter du Bitcoin ou des cryptos. Est-ce que ce phénomène-là commence à apparaître, Thibault ?
Bah écoutez, c'est la tendance qui semble se dessiner tout doucement. En tout cas, il y a eu un sondage qui a été réalisé aux États-Unis par Chainplay qui posait justement cette question, et les répondants, pour plus de la moitié, disaient qu'ils avaient vendu des actifs dits traditionnels, donc de l'or ou des actions, pour acheter du Bitcoin et des cryptos. Alors faut prendre beaucoup de hauteur hein, sur ce sondage. L'échantillon est relativement réduit, mais en réalité le chiffre est peu important, c'est-à-dire que ce soit 30%, 50%, 60%, on se moque un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir la tendance qui est en train de se faire, et aussi le renouvellement générationnel aussi qui est en train de s'opérer, où on voit que finalement il y a de moins en moins de décalage sur la jeune génération entre la détention d'actions ou de crypto, et donc petit à petit dans le temps ça va se lisser, et donc effectivement on aura un Bitcoin qui prendra de plus en plus de place dans une diversification de portefeuille.
Oui, alors MicroStrategy évidemment est pionnier dans la matière, ils y croient, MicroStrategy, ils sont cotés en bourse, mais parfois ils revendent leurs propres actions pour acheter plus de Bitcoin et renforcer encore leurs réserves en Bitcoin. Autrement dit, ils se coupent un petit doigt pour essayer de se faire pousser une jambe, quoi. C'est un peu ça la stratégie, la philosophie de MicroStrategy, et ça s'est encore confirmé ces derniers jours. Ils ont encore acheté pour plus d'1 milliard de dollars de Bitcoin supplémentaire, Charles.
Ouais, effectivement, ils ont acheté pour 11 000 bitcoins supplémentaires. Je me suis noté les stats juste ici. En fait, ça correspond à un plan qui a été annoncé, je crois, en octobre dernier par Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, qui est le plan 21-21, donc globalement qui vise dans les 3 prochaines années à déployer 42 milliards d'euros sur les marchés pour acheter du bitcoin, 21 milliards via l'émission d'obligations et 21 milliards via l'émission de nouvelles actions. Donc c'est vraiment la continuité d'une stratégie qui a déjà été engagée.
Ça continue, hein. Décidément, MicroStrategy ne font pas machine arrière, loin, loin, loin de là. Et on a un Bitcoin toujours au-delà des 100 000 dollars en cette fin de semaine. On parlera dans un instant quand même de Silk Road et de son créateur qui a été libéré. C'est un événement hein, pour ceux qui suivent les cryptos depuis quasiment les premières années, pour les pionniers, pour les vrais, quoi, en quelque sorte. Non, mais tout le monde est vrai, un vrai converti aujourd'hui sur les cryptos. Quand on se convertit aux cryptos, on est forcément sincère. J'ai envie de le dire comme ça, parce que tout le monde n'est pas encore converti. Et donc, Silk Road, dans un instant, on vous expliquera pourquoi ce qui a été décidé par Donald Trump constitue un tournant. Juste avant, Thibaut, la SEC, ça fait partie des nouveautés de la semaine aussi, ces nouvelles équipes de la SEC qui se mettent en place. Eh bien, la SEC a officiellement annulé le SAB 121. Alors, ça peut paraître technique, c'est sans doute technique, mais c'est quand même important. Thibaut.
Ouais, Charles en parlait juste avant. Donc, c'est une directive qui avait été posée en 2022 et qui avait vocation à encadrer et à mettre un petit peu plus à encadrer les entreprises qui voulaient manipuler des fonds crypto sur comment elles devaient les comptabiliser derrière. Et c'était une directive qui était jugée un petit peu excessive et carrément décourageante pour certains acteurs qui voulaient manipuler de la crypto. Donc là, on a une suppression qui s'inscrit aussi dans la dynamique de la création de ce groupe de travail au sein de la SEC, où on va essayer de repartir d'une feuille blanche, rétablir un dialogue avec les acteurs et essayer de trouver des textes qui sont beaucoup plus en adéquation avec la réalité du terrain finalement.
C'est fou, hein, la richesse, la densité de l'actualité en ce moment dans l'écosystème crypto. Et messieurs, votre talent pour arriver à synthétiser tout ça avec beaucoup de clarté à chaque fois en 20 minutes, c'est votre rendez-vous des pros des cryptos le vendredi, à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Crypto. Et donc Silk Road, pour terminer, on conclut en beauté. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Le créateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a donc été gracié par Donald Trump, décision du nouveau président. Pourquoi est-ce que ça constitue pour le Bitcoin une date si importante, Charles?
Ouais, peut-être rappeler juste Silk Road pour ceux qui nous suivent, qui était une forme de plateforme, de marketplace sur internet sur lequel il n'y avait pas de modération, et donc on pouvait acheter, vendre absolument ce qu'on voulait. Et donc, on imagine bien les dérives que cela a pu créer de l'autre côté. Le fondateur avait été quand même très lourdement condamné, je crois il y a près de 10 ans maintenant, pour avoir créé cette marketplace, puisqu'il avait été condamné à 2 peines à perpétuité de prison. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était extrêmement lourd. En réalité, le lien avec Bitcoin, il est assez sommaire, mais c'est que Bitcoin était utilisé comme l'actif de règlement sur cette plateforme-là. Tout simplement parce qu'il avait les mêmes caractéristiques, j'allais dire, d'ouverture, de liberté, de décentralisation que pouvait offrir cette plateforme. Et donc, c'était l'actif de règlement assez natif sur cette plateforme. Donc, j'allais dire, la libération aussi de Ross et finalement s'inscrit un peu dans le soutien qu'ont apporté les mouvements libertariens à Donald Trump pendant son élection. Donc, c'est une suite assez logique. Et c'était une promesse de campagne de Donald Trump.
Merci à nos pros des cryptos cette semaine. Charles-Aubert Couturier, membre de Blockchain Partner by KPMG. Merci Charles d'être passé nous voir sur le plateau. Thibaut Boutrou, depuis ses bureaux de Meria. Merci beaucoup Thibaut, la fidélité de Thibaut Boutrou à BFM Crypto. Bien sûr, chaque semaine, on remercie Vincent Gann. Lundi, Sandra Gondouin, le club BFM Crypto du lundi au jeudi sur BFM Business. Bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.